lexique qui vous permet de retenir le vocabulaire essentiel à chaque objet d'étude au programme, en l'occurrence le théâtre, la poésie, le roman et la littérature d'idées. Alors ces mots vous seront utiles pour commenter aussi bien à l'oral qu'à l'écrit les textes que l'on vous proposera aux deux épreuves. Vous montrerez alors à votre examinateur et à votre correcteur que vous maîtrisez le vocabulaire approprié à ces épreuves. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au vocabulaire de la poésie et l'infographie qui accompagne cet épisode vous permettra de voir non seulement la liste des mots que nous allons évoquer, mais aussi vous permettra d'avoir des exemples appropriés à chaque fois qu'on définira un des mots clés. Alors, dans ce premier épisode, on va s'intéresser justement à tout ce qui est en lien avec l'analyse du texte poétique et nous allons commencer par les types de vers. Alors, petit clin d'œil, le terme vers vient du latin versus qui signifie le sillon, la ligne d'écriture et le vers se distingue de la prose tout simplement par un retour à la ligne à la fin de chaque vers comme vous le savez. Alors, nous n'allons pas évoquer tous les types de vers, bien évidemment, ensemble. On va évoquer surtout ceux qui sont les plus fréquemment utilisés par les poètes. Et on a des vers pairs ou des vers impairs. Alors, dans ce que vous devez connaître dans les vers pairs, c'est bien sûr les deux que j'ai indiqués sur l'infographie, l'alexandrin et l'octosyllabe. Donc, l'alexandrin, hein, c'est le vers par excellence, le vers noble, qui concerne la poésie qui, à partir du XVIe siècle, utilisait donc ce type de vers pour des sujets dits sérieux. Donc, vers de 12 syllabes, et vous avez l'exemple d'Hugo sur l'infographie. Ensuite, vous aviez l'octosyllabe, vous avez l'octosyllabe, le vers de 8 syllabes, avec l'exemple de Ronsard, et je vous ai mis la voyelle E, que j'aime, parce qu'il faut la prononcer bien sûr en une syllabe pour arriver à l'octosyllabe. Alors on trouve aussi dans la poésie les vers dits impairs, comme l'heptasyllabe, donc vers de 7 syllabes. Là il y a un exemple de La Fontaine, hein. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. Et vous aviez aussi l'énéasyllabe, qui est un vers qui privilégie donc l'utilisation de vers de 9 syllabes. Et l'exemple de Verlaine vous montre hein, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair. Et donc, dans le même principe, vous avez la prononciation des E à l'intérieur du vers pour parvenir justement à avoir un vers de 9 syllabes. Donc ça, c'est les types de vers qui sont majoritairement utilisés, bien sûr, en poésie. Après, si l'on continue, bien sûr, deux autres mots clés que vous devez absolument maîtriser, c'est l'allitération et l'assonance. Alors, ces deux mots-là vont vous être utiles lorsque vous avez, bien sûr, analysé des vers. Et l'objectif, c'est déjà de repérer ces allitérations et assonances et ensuite de montrer à l'examinateur quelle serait leur portée. Alors, l'allitération, c'est tout simplement lorsque vous avez dans un vers, voire plusieurs vers, la répétition d'un son qui est, à ce moment-là, une consonne. On va parler donc d'allitération. Et l'exemple de Rimbaud vous montre ici que vous avez une allitération, donc vous voyez sur plusieurs vers, hein, c'est pas obligé que ça soit que sur un vers, vous avez l'allitération, c'est-à-dire la répétition de la consonne D, mais aussi R. Et en fonction, bien sûr, du sens du texte, hein, vous montrez aussi la portée de ces sonorités. Ici, vous avez des sons, des allitérations plutôt de consonnes dures qui vont montrer, bien sûr, la cruauté de la situation, en l'occurrence ici, ce soldat qui a été tué. Et puis, l'assonance, à ce moment-là, c'est la répétition d'un son, cette fois-ci d'une voyelle. Et vous avez ici, dans l'exemple de Rimbaud, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, vous avez le son « en », donc vocalique, qui revient ici sur tout le vers. Et bien sûr, on a tendance à vous expliquer que vous avez des voyelles dites claires, des voyelles dites sombres, claires comme « a »,« i », parce que vous le prononcez à l'avant de la bouche, et souvent ce sont des voyelles claires qui sont dans des thématiques joyeuses, heureuses, alors que les voyelles sombres sont plutôt dans des thématiques marquées par la tristesse, la mélancolie ou la nostalgie. Et à vous donc d'adapter la signification des sons en fonction du contexte du poème. Alors, petit moyen mnémotechnique, parce que souvent vous faites la confusion entre allitération et assonance, regardez la fin de chacun de ces mots. Allitération finit par un N, donc c'est comme ça que vous souvenez que ce sont les consonnes, et assonance finit par un E, et c'est comme ça que vous souvenez qu'il s'agit des voyelles. C'est tout aussi simple que ça. D'autres termes qu'on va évoquer cette fois-ci, que vous devez connaître, diérèse et synérèse. Alors, la diérèse et la synérèse, ça, c'est une des caractéristiques aussi en poésie. C'est pareil, vous allez voir, c'est assez simple. On va commencer par la diérèse. C'est lorsque vous divisez en deux syllabes, divisant deux syllabes de deux voyelles contiguës dans un même mot, dont par exemple, celui que vous avez sous les yeux, hein, la vie mais est trop molle et trop dure, il faut que vous disiez la vie mais est trop molle et trop dure, c'est-à-dire vous coupez le mot en deux syllabes, vie pour obtenir justement le décompte correct. Et bien sûr, en général, lorsqu'il y a une diérèse, c'est pour insister sur un mot-clé dans le texte. La synérèse, à l'inverse, c'est lorsque vous réunissez en une seule syllabe deux voyelles contiguës dans un mot. Et à ce moment-là, vous ne faites entendre qu'une syllabe. Exemple de Dubélé, mais c'est celui-là, Morel, n'est pas mauvais ouvrier. Vous ne dites pas ouvrier, vous dites ouvrier, c'est-à-dire que ça fait qu'une syllabe et non pas deux. Pour souvenir aussi de la distinction entre diérèse et synérèse, D pour deux, dit, synérèse S pour seul. Donc on répète, une diérèse, on prononce en deux syllabes, deux voyelles contiguës, la vie E au lieu de la vie, et synérèse, en une seule syllabe, justement comme ouvrier, ou alors un autre exemple qu'on vous donne communément, lion. Si vous le dites en une synérèse, c'est lion. Si vous dites en une diérèse, c'est lion. Continuons notre petite découverte des termes clés. Alors, les rimes dites féminines et masculines. Vous allez voir, c'est tout simple. La rime, alors prenons l'exemple sur l'infographie avec Marot et le quatrain que nous avons. Amour, tu as été mon maître, je t'ai servi sous tous les dieux. Ah, si je pouvais deux fois naître, comme je te servirais mieux. Pour déterminer ces rimes masculines, féminines, il faut regarder la fin de chaque vers. La rime est dite féminine quand elle se termine par un E muet. Là, vous avez maître, naître. Et dans ce cas-là, si vous avez identifié une rime féminine, vous avez des rimes masculines dans les autres cas. Ici, Dieu, mieux. Vous voyez bien que ça ne se termine pas justement par un fameux E muet. Donc, vous avez bien cette distinction rime féminine, masculine. Autre terme que vous devez aussi connaître, enfin vous devez distinguer, c'est les types de rimes. Alors, toujours à l'aide du schéma, première chose qu'il faut savoir, ce que l'on appelle les rimes pauvres, suffisantes et riches. Alors, c'est tout simple aussi, il faut juste avoir la pratique et l'observation dans le texte. Les rimes qu'on appelle pauvres, c'est tout simplement lorsque vous allez avoir seulement un son qui est en commun entre deux vers. Par exemple, vous avez le son « beau »,« nouveau », c'est-à-dire vous entendez juste « haut ». Donc ça, c'est ce qu'on appelle une rime pauvre, puisque vous avez le retour d'un seul et même son à la fin de deux vers, voire plus. Ensuite, la rime qu'on appelle « suffisante ». Si on est logique, elle est dite « suffisante » parce que les mots qui se font écho ont deux sons en commun. Regardez l'exemple « soudain, dédain », vous avez le son « de »,« des », et puis le son « un ». Donc on va parler d'une rime « suffisante ». Et ensuite, la rime « riche », c'est lorsque vous avez trois sons, voire plus, qui se font écho entre deux termes, deux mots. L'exemple qu'on vous a mis sur l'infographie, toujours, séjour, vous avez le son je, j, le son ou, et le son R. Donc, il faut que vous raisonniez aussi comme ça, hein, par son. Et donc, ça vous permet ensuite de, pareil, lier la connotation des mots qui sont mis à la rime avec le sens voulu dans le texte. Et puis, on va terminer par le schéma des rimes qui, bien sûr, caractérisent certains poèmes, en particulier le sonnet, ça en reviendra dans l'épisode 3 sur les formes poétiques. Alors, on peut parler de rimes suivies, embrasser ou croiser. Et pareil, sur l'infographie, vous voyez qu'il y a trois exemples qui vous permettront de distinguer l'un et l'autre. Commençons par les rimes suivies. C'est tout simplement, quand vous regardez le quatrain, ou du moins là ici, le texte, la strophe chez Apollinaire, regardez les sons qui se font écho à la fin de chaque vers. Vous avez baladin qui fait écho à jardin et vous avez grise qui fait écho à église. Et vous avez remarqué que vous avez le son qui suit le vers 1 et le vers 2 et le son ise qui suit le vers 3 et le vers 4. Donc on va tout simplement, c'est la raison pour laquelle on appelle ça des rimes suivies. Donc le vers 1 fait écho au vers 2, le vers 3 fait écho au vers 4. Rime embrassée, comme le terme l'indique, vous avez un son qui va embrasser l'autre. Ici, vous avez l'exemple avec Théophile de Viau, pierre, lierre, le son est donc identique, qui va embrasser un autre son, nous, jaloux. Donc le vers 1 et le vers 4 embrassent les vers 2 et les vers 3. C'est pour ça qu'on appelle cela des rimes embrassées, et vous aurez souvent cela présent dans ce que l'on appelle la poésie lyrique, plus particulièrement celle qui évoque les sentiments amoureux, comme si le poète, avec ses vers, embrassait la femme aimée. Et puis le dernier exemple, les rimes croisées. Comme son terme l'indique, les sons vont se croiser. Le vers 1 va faire écho au vers 3, rose, chose, dans l'exemple de Victor Hugo. Et le vers 2 va se croiser avec le vers 4, moi, qui rime avec quoi. Donc ça aussi, bien sûr, ces observations n'auront de sens que si vous montrez aussi en quoi les mots qui sont mis à la rime ont une signification et une symbolique particulière. Mais ce qu'on va vous demander, c'est quand même de bien identifier tous ces procédés, de bien les repérer dans vos observations. Mais comme vous le savez, l'observation n'est pas simplement l'étape finale. Il faut observer tous ces procédés poétiques pour ensuite donner du sens. Donc on vient de voir dans ce premier épisode les mots vraiment qui sont attendus par votre examinateur, votre correcteur, quand vous allez analyser un texte poétique. Il faut juste un peu de bon sens, d'observation, essayer d'utiliser les moyens mnémotechniques comme je vous ai donné pour allitération, assonance ou biérès, synérèse pour souvenir de leur définition. Et ensuite, vous allez les utiliser à chaque fois que vous allez découvrir un texte poétique. Cet épisode sera suivi d'un deuxième épisode qui tournera aussi autour des termes, on va dire, techniques qui permettent l'analyse du texte poétique. Je vous donne donc rendez-vous très vite sur Clapotis pour découvrir la suite du vocabulaire poétique.